L'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
La musique classique et au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
À vouloir réarticuler une pensée après avoir observé les fascinations d'usage devant les performances musicales des algorithmes, on entend se déclencher une petite musique assez mécanique qui dit globalement toujours la même chose : les machines ne devraient plus du tout tarder à pouvoir remplacer les talents naturels, ou pour le dire plus positivement mais sans que le constat soit si différent sur le fond, la créativité humaine n'aura jamais dit son dernier mot puisqu'elle ne fera jamais la même chose qu'une calculatrice géante. Qu'elle se joue en mode dépressif ou en mode exaltant, cette petite musique revient à placer les rapports entre musique et algorithme sur une marge du progrès informatique dont l'imaginaire serait donc à jamais déconnecté des humanités. Alors qu'à fouiller l'histoire des musiques algorithmiques, à regarder comment les premiers compositeurs qui ont revendiqué l'usage de l'informatique ont modélisé la musique, les outils qu'ils ont employés devaient traiter de la musique comme d'un langage, et ce faisant reconduire des paradigmes plutôt rhétoriques. Ce numéro de Métaclassique propose de reprendre l'histoire de la musique algorithmique à partir des chaînes de Markov, un processus stochastique qui tire son nom du mathématicien russe Andrei Markov, qui, en 1913, avait expérimenté le fonctionnement de ces chaînes dans un travail de linguistique statistique en utilisant la séquence de 20 000 lettres d'Eugène Onéguine d'Alexandre Pouchkine. Remarquant que l'apparition de celle-ci dépendait fortement des précédentes, il a donné l'intuition qu'un algorithme pourrait simuler un style préexistant par des déductions de probabilité d'apparition de telle note à la suite de telle autre. C'est-à-dire qu'une inspiration littéraire précède l'usage des algorithmes en musique et fait penser que le discours tient alors dans l'ordre des notes et prolonge l'analogie entre lettres et notes. Pour faire l'histoire et envisager une actualité de l'usage des chaînes de Markov en musique, nous recevons Miller Puckett, connu de la communauté musicale pour avoir créé les logiciels Max et Pure Data, et un compositeur pour lequel il a beaucoup collaboré, Philippe Manoury, dont l'œuvre est traversée d'usages très divers et joyeusement variés d'édites chaînes de Markov. Pour commencer, voici une œuvre de 1956, la suite Tilliac, consacrée comme un point de départ de la musique algorithmique. C'était extrait de la suite Iliac de Leonard Isaacson et Jaron Hiller. Alors c'est précisément une des œuvres où on hésite à dire deux, parce que comme ça a été produit par un ordinateur, parfois on fait porter la charge de la composition à la machine. Bonjour Miller Puckett.
Bonjour.
Est-ce que on peut dire que c'est la première œuvre algorithmique, c'est-à-dire la première œuvre produite par un ordinateur, 1956?
Presque. Si on regarde dans les bouquins, il y a toutes sortes d'histoires, comme par exemple, il y a les Würfelspiel de Mozart et tout ça qu'on réclame comme antécédent.
Ça, c'était des pièces qui étaient tirées au dé.
Oui, c'est ça. Et donc, c'était pas des ordinateurs, mais c'était les mêmes idées, je crois.
C'était le même principe de combinaison. Parce que comment ils ont fait alors, Hiller et Isaacson, pour composer ça?
Je ne sais pas en détail. Hein.
Ouais, alors, Philippe Manoury, bonjour. Dites-nous.
Moi, c'est Michel Philippot qui m'avait introduit là-dessus. Je crois qu'ils ont pris le traité de Fuchs, qui était le traité qui faisait office de traité de contrepoint,
oui,
à l'époque.
Donc, traité pédagogique.
Sur lequel Beethoven, Schubert, même Mozart ont travaillé. Enfin, c'était le le traité de contrepoint, et Fuchs aussi. Et l'idée, c'était que dans le premier mouvement, le programme respectait les règles de Fuchs, enfin, oui. Les contrepoints, pas de quintes successives, pas d'octaves successives, la conduite des voix. Et petit à petit, dans les autres mouvements, il retirait les contraintes. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est qu'on tirait des nombres au hasard pour choisir des notes, et si ces nombres tombaient, il y avait des filtres, quoi. Et oui. Les filtres étaient les règles de contrepoint, et donc on laissait passer que les notes qui respectent ces règles de contrepoint.
C'est-à-dire qu'il y avait eu tout un travail qui était plutôt celui de Jaron Hiller, ouais. Qui consistait à traduire quand même les règles de contrepoint du traité classique, ouais. En langage informatique reconnaissable par l'ordinateur.
Ouais. Mais au début, je pense que c'était des flots de nombres aléatoires, enfin qui des notes aléatoires,
oui.
Et duquel on retenait que les notes qui respectaient
les règles voilà. De Fuchs. Enfin, voilà, de Fuchs, d'accord. Ça. Et donc ce qui faisait ce côté un peu musique classique
c'est
quand
ça,
même.
Voilà. Ouais. Et après, ils ont retiré, dans les mouvements suivants, ils ont retiré des règles, c'est-à-dire qu'ils ont assoupli, oui. D'une certaine manière les choses. Et donc petit à petit, ils retiraient de plus en plus de règles. Dans les mouvements suivants. Et ce qui est assez cocasse dans cette œuvre, c'est que, bon, il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais...
Vous l'avez entendu à l'instant.
Oui, oui. Il en reste toujours quelque chose du début.
Oui.
Mais ça fait donc de la musique tonale avec des fausses notes, finalement.
Oui.
Plus. Et ce qui est très...
Ça fait de la musique tonale déréglée, mais tonale quand même.
Voilà, mais oui. Donc, pour moi, c'est intéressant parce que ça démystifie certaines esthétiques. Je pense à Hindemith, par exemple, ou beaucoup de choses néoclassiques, où c'était, bon, on voulait faire des choses très classiques, avec un fond classique, avec des harmonies classiques, mais on voulait être un peu moderne, donc on ajoutait quelques dissonances par-ci, par-là.
Oui, sauf que les écarts stylistiques étaient faits main.
Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, la suite Iliaque marche sur cette idée de retirer comme ça des contrats.
Alors, vous disiez que c'est Michel Philippot, ouais. Qui vous a fait rencontrer cette œuvre. Mmh. Michel Philippot, il est un des pionniers de ce qu'on a appelé la musique algorithmique, oui. En France dans les années 60, et même, ouais. Il se référait à cette œuvre comme, oh, une, ouais. Espèce de point de départ. Et vous, vous vous êtes mis, en le connaissant, à faire des opérations assez similaires, en prenant, par exemple, la grande fugue de Beethoven, en la découpant dans tous les sens, mmh. Et en la recombinant. Qu'est-ce que vous faisiez exactement ?
Ah bah, j'ai voulu analyser la probabilité d'apparition de certains intervalles en respectant une analyse statistique que j'avais fait sur toutes les phrases musicales dans la Grande Fugue.
Parce que je crois avoir vu des graphes de Philippot lui-même qui avait comparé sur certains quatuors de Beethoven, effectivement. Alors c'était quoi ? C'était des pourcentages,
oui.
Où il nous disait qu'il augmentait d'un demi-ton 35%,
voilà,
des fois, ou quelque chose comme ça.
Et ouais. Par exemple, moi, ce que j'avais fait, c'est que dans la Grande Fugue, il y a par exemple une note répétée, tata, tata. Bon, ouais.
Oui.
Et alors, il y a une note répétée. Après la répétition, quel pourcentage il y a pour qu'il y ait une tierce majeure montante,
oui.
Ou une tierce mineure descendante, etc. Donc, j'avais calculé ces pourcentages sur un grand nombre de... J'avais pris la somme de toutes les...
Tout à la main.
Ça avait pas de problème. Et j'avais recomposé des mélodies donc, qui respectaient cette...
L'ordre des probabilités voilà. Et ça ressemblait à du Beethoven ?
Alors, ça ressemblait à du mauvais Beethoven.
Ouais.
Pour une bonne raison, c'est que Beethoven n'a pas conçu ça de manière probabiliste. Et dans la grande fugue de Beethoven, il y avait quand même un soubassement harmonique.
Ouais.
Il n'a pas conçu les mélodies dans l'abstrait. Mais moi, j'ai voulu, comme ça... C'était un peu une tentative d'analyse phénoménologique, quoi.
Mmh.
Mais qui ne prenait pas en considération la structure harmonique qui pourtant était bien réelle chez Beethoven.
Il faut dire que si on lit un texte sorti de ChatGPT,
oui.
Il y a exactement le même problème. C'est qu'il comprend les patterns dans les choses qu'il voit, mais il ne comprend pas le sens.
Il ne comprend pas le lien entre les patterns qu'il assemble.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, il n'y a pas de forme, mais il y a l'apparence.
Oui, l'apparence d'une cohérence.
Et finalement, dans le profond, c'est le même algorithme. C'est-à-dire que c'est prendre une base de données, dans ce cas-là, beaucoup plus large, et de comprendre les fréquences des occurrences et d'imiter les fréquences sans avoir le pensée derrière.
Mais c'est quoi la pensée qui, justement, échappe au calcul de ces fréquences ?
Ah, oui, ça, c'est une bonne question.
Ouais.
qu'est-ce que les compositeurs pensent quand ils composent?
Non, mais même dans le chat GPT, enfin, la pensée, c'est, il y a une intentionnalité. Quand on parle, on ne fait pas que respecter des règles de grammaire.
Il y a d'autres opérations.
Il y a une idée. Par exemple, ouais. On veut exprimer quelque chose, une réalité ou quelque chose, ou décrire quelque chose. Donc, il y a quand même, on va dans un certain but. Et pour le faire, donc, on utilise le langage qui a des règles bien codifiées. Mais quand on, c'est ce que dit Miller, c'est que quand on ne fait que respecter la codification des règles, et on retire tout l'arrière-fond qui est bon, vraiment l'intentionnalité, l'expression, la durée, enfin plein de choses.
On viendra sur les autres paramètres tout à l'heure. Alors Michel Philippon, on pourrait dire que c'est celui qui a importé en France ces préoccupations algorithmiques qui venaient de la suite Ilia, qu'il était entouré d'autres gens, de Pierre Barbeau avec qui vous avez travaillé, on en parlera tout à l'heure, de Janine Charbonnier,
ouais.
et puis de Yanis Xenakis, qui avait un statut peut-être un peu à part dans ce groupe, et qui écrit un livre qui s'appelle « Musique formelle », dans lequel le premier chapitre s'intitule « Musique statistique, entre parenthèses, générale, libre », et chapitre 2 « Musique statistique markovienne ». Miller Puckett, vous pouvez nous expliquer la différence entre une musique stochastique libre et une musique stochastique markovienne ?
Oui, la différence est, à ma connaissance, la différence est la suivante, c'est que la musique totally stochastic, je crois que c'est le truc en anglais qu'ils ont dit, c'est une musique qui n'a pas de mémoire du tout.
Une musique stochastique, ça n'a pas de mémoire ?
Oui. Donc, il faut dire que le langage est mal utilisé là, oui. Parce que stochastique, ça peut en général référer à des processus Markov aussi. Mais d'après Xenakis, ce qu'il avait utilisé le mot pour décrire, c'est une musique qui oublie à chaque fois qu'il fait un événement tout ce qu'il a fait pour chasser un autre événement selon la même loi probabiliste, mais sans faire repère à ce qui s'est passé dans le passé.
C'est-à-dire que donc, c'est par exemple un algorithme qui, à chaque nouvelle note dont il prend la décision, ne prend pas en compte tout ce qui s'est passé avant pour faire la décision. Donc c'est comme si on retirait au dé à chaque fois.
C'est comme si, quand on composait, on couvrait toute la partition jusqu'au présent. On fait une note et on le couvre, on fait une autre note, on couvre celui-là aussi.
Ah, comme un cadre avec ski, Et alors, c'est quoi une chaîne de Markov ? Parce que ça date du début des années 1910 ?
Je ne sais même pas. Monsieur Markov a dû être la personne qui avait décrit ça. Ouais. Mais là, on a le droit, je vais simplifier un peu, mais oui. On a le droit de regarder juste la note précédente.
D'accord.
Mais pas le reste de la partition.
Mais qu'est-ce que ça fait de regarder la note précédente ?
C'est-à-dire que, par exemple, si c'est défendu de sauter par une octave, par exemple, le fait qu'on vient de faire do, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un do après. Donc on peut regarder juste la note précédente pour savoir quelles seront les probabilités de la note à choisir prochainement.
D'accord.
Donc ça, ça s'appelle une probabilité conditionnelle. C'est conditionné sur la note qu'on vient de voir.
Et ça fait une grande différence ?
Oui, ça fait une différence très... Par exemple, une promenade aléatoire, c'est une espèce de chaîne Markov dans laquelle chaque note peut être soit un pas en dessus, soit un pas en dessous de la note précédente. Et donc, on fait toujours des mélodies continues avec que des secondes de transition. Si on fait un truc totally stochastique à la Xenakis, ça ferait, si vous avez 88 notes par exemple, à chaque fois que la note précédente échappe, vous sautez dans une autre, donc les sauts seraient des octaves la plupart du temps.
Est-ce que stochastique et aléatoire sont synonymes ?
Dans les musiques aléatoires, il y a beaucoup de choses, parce que même Cage faisait de la musique aléatoire. Il s'inspirait des
Vikings.
Des Vikings, c'est ouais. Ça. Et puis, il y a eu beaucoup à l'époque de musique aléatoire. André Boukourechlev a fait ses archipels. Et la troisième sonate de Boulez, le clavier 11 de Stockhausen, sont aléatoires dans le sens où ce sont des pièces dans lesquelles l'interprète n'a pas un ordre prédéfini pour jouer la pièce, mais il peut passer comme ça d'une séquence à l'autre, des fois suivant un ordre aléatoire, mais plus ou moins conditionné, ou des fois, comme chez Stockhausen, il demande un clavier 11, je crois qu'il y a 17 séquences, et il dit que surtout qu'il ne faut rien prédéterminer.
C'était là de l'ordre des séquences.
C'est là où le l'œil se porte pendant le concert, on regarde cet élément dans la partition, on le joue. Puis après, on regarde un autre élément, on le joue. Mais il ne voulait pas qu'on prédétermine le chemin, parce que la fin d'une séquence donnait le tempo de la séquence suivante. Donc, alors, justement, Philippot avait calculé si on développait toutes les possibilités dans le Klavierstückhaus de Stockhausen, si on voulait
réaliser toutes les combinaisons,
ça durait plusieurs siècles.
D'accord.
D'accord, à côté sur.
Je crois avoir entendu que si on faisait une marche complètement aléatoire, c'est-à-dire si on décidait de faire un pas en avant, un pas sur la droite, un pas sur la gauche, et que on respectait vraiment le hasard, on n'irait pas très loin. Comment ça se fait ?
C'est ce qu'on appelle « drunk walk ».
Oui, le promenade de livre.
Ouais, le livrogne.
Oui. Sauf que lui, il zigzague, mais il va propre et droit, le livrogne.
C'est vous qui le dites.
Peut-être que je connais des ivrognes un peu sobres.
Oui, mais en tendance, même si on fait la plupart du temps autant de pas à droite, à gauche, c'est certain que dans le temps, on va diverger de l'origine, mais beaucoup plus lentement que si on avait une directionnalité.
Mm. Parce que ces chaînes de Markov, elles ont servi à mesurer le désordre de la part de Claude Shannon, dont on dit qu'il a inventé l'informatique.
Oui, la théorie d'information plutôt. Oui, et donc par exemple, pour n'importe quelle chaîne Markov, on peut se demander quelle est l'entropie, c'est-à-dire quelle est la nouveauté de chaque note par rapport à la note précédente.
C'est la mesure du désordre, c'est ça.
C'est ça, c'est ouais. Ça. Donc, par exemple, la musique stochastique à la Xenakis, c'est le plus aléatoire, c'est donc le plus d'entropie. Les chaînes de Markov peuvent avoir une entropie de zéro. On peut faire une chaîne qui juste répète la même note à jamais, quoi.
Mm.
Donc c'est un paramètre qu'on peut contrôler.
Dans quelles circonstances est-ce que on peut utiliser les chaînes de Markov pour reproduire des styles préexistants ? Parce que vous disiez, Philippe Manoury, que vous n'aviez pas réussi à faire du bon Beethoven avec vos opérations sur la Grande Fugue, mais il y a un chercheur qui s'appelle David Cope, mm-hmm. Qui a essayé lui-même de prolonger son propre style pour au moins avoir un effet rebutant et que ça lui donne une stimulation à écrire autrement. Et puis après, il s'est mis à faire du faux Mozart, du faux Chopin en encodant, et lui, il a utilisé des chaînes de Markov.
Oui, mais lui et d'autres personne, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je dois dire que moi, ça n'a pas grand intérêt,
oui.
Parce que si vous voulez, c'est un peu comme une glace à la fraise et une fraise. Ça donne un goût. Une glace à la fraise, vous avez le goût de fraise, mais on est quand même loin de la fraise.
Ah, c'est l'effet Canada Dry.
Voilà, c'est ça. Et donc, j'ai entendu des gens qui font du faux Rachmaninoff ou du faux Brahms en prenant comme ça des choses aléatoires. Ça marche pendant un tout petit moment, effectivement, on entend qu'il y a des accords qui sonnent un peu comme Rachmaninoff ou des mélodies qui sonnent un peu comme Brahms. Mais on voit, enfin, plus on rentre dans le temps de l'œuvre, plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas de pensée compositionnelle. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas un grand fanatique de Rachmaninov, mais quand j'écoute les imitations de Rachmaninov par ordinateur, je me dis quand même quel compositeur c'était. Parce que je donne un exemple très simple, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficilement formalisables, puisque ça dépend de la perception du compositeur. C'est-à-dire que quand on compose, ce que les gens n'imaginent pas, mais même compositeurs n'imaginent pas non plus, c'est qu'on prend une quantité de décisions mais énorme, mais inconsciemment.
Oui, bien plus importante que de savoir quelle est la note qui suit le do dièse.
Bien sûr, inconsciemment, c'est-à-dire, des fois, pourquoi est-ce que je vais prendre, choisir le hautbois pour jouer telle note plutôt que la flûte ? Parce que je l'entends comme ça. Et ça, je ne peux pas... Et c'est parce que j'écoute ce que j'ai écrit, et ensuite, je prends la décision de mettre telle note, ou tel instrument, ou tel accord, ou telle sonorité. Je peux des fois pas dire pourquoi. Et donc, ce retour de... Parce que Miller parlait du chêne de Markov, il faut regarder le passé, mais quand on compose, on regarde beaucoup ce qu'on écrit avant. Et ce qu'on écrit avant nourrit... Là, ce qui est important, c'est le domaine de la perception. C'est-à-dire que le compositeur perçoit dans sa tête ce qu'il a écrit, ce qu'un ordinateur ne peut pas faire. Et donc, la pensée compositionnelle se dilate plutôt.
Mais si on a commencé à encoder des notes avec ces chaînes de Markov, c'est pas du tout de la faute des chaînes de Markov. C'est
pas du tout.
Essentiellement parce que le monde musical était hyper déterminé par les questions de hauteur.
Oui, bien sûr, pas du tout. C'est pas du tout de la faute des chaînes de Markov. Et il y a des... Alors moi, j'utilise beaucoup les chaînes de Markov avec Miller.
On va y venir et on va écouter. Oui,
mais là, c'est vraiment dans un but de création. Et la musique n'aurait pas pu exister s'il n'y avait pas eu ces chaînes de Markov. Mais je n'essaye pas de reconstruire quelque chose qui existe. Et en plus, qui existe, parce que si on refait du Schubert, par exemple, Schubert n'avait aucune idée de ce que c'était les probabilités. Donc sa pensée n'était pas du tout probabiliste. Elle était au contraire déterministe. Et donc, on peut, comme je disais, c'est comme une glace à la fraise par rapport à une fraise. C'est-à-dire qu'on entend, il y a un parfum qui peut faire penser à Schubert, mais dès qu'on en, au bout de je sais pas moi, 7 ou 8 secondes, on s'aperçoit que c'est, ça tourne en rond, quoi.
Oui, la chose intéressante, c'est trouver comment utiliser un truc comme un chaîne Markov pour les buts compositionnels. Oui. Et donc, l'intéressant de ce que nous avons fait ensemble, ce n'est pas utiliser les chaînes, mais de les utiliser d'une façon contrôlable par le compositeur. C'est-à-dire que le compositeur donne la forme à la chose qui est remplie dans les détails par la chaîne Markov. Voilà.
Avant de s'attaquer effectivement à ce que vous avez fait ensemble tous les deux, Meller Puckett et Philippe Manoury, je vous propose d'écouter un extrait quand même de Chopin version David Cope. Ce que l'on vient d'entendre pour vous, Philippe Manoury, c'est plutôt une glace à la fraise qu'une fraise. Mais si on avait voulu faire une fraise, est-ce qu'il n'aurait pas simplement fallu appliquer à la glace à la fraise une chaîne de Markov qui prend en compte les questions de consistance, par exemple ?
Oui, mais alors Miller a parlé justement des chaînes de Markov qui retournent un peu en arrière. On peut évidemment dire qu'une note va décider de la note qui va suivre. Mais on peut aller plus loin, on peut faire une
mémoire plus importante.
Voilà, c'est-à-dire on peut dire que s'il y a trois notes qui montent, par exemple, la quatrième va être telle ou telle note, quoi. Mm. Donc on peut aller plus dans le passé que si l'on veut. Et pour faire du Chopin, comme je disais tout à l'heure, il faudrait aussi que l'ordinateur puisse apprécier ce qu'il a fait et en tirer un jugement esthétique pour savoir ce qu'il va faire maintenant. Parce que le jugement esthétique, il est en permanence dans la tête d'un compositeur et aussi d'un improvisateur, d'ailleurs.
Les premiers compositeurs algorithmiciens français, on parlait de Michel Philippot, de Pierre Barbeau par exemple, ils utilisaient les chaînes de Markov ou que pour les questions de hauteur, ou ils l'appliquaient aussi sur les dynamiques, sur...
Non, je pense surtout les questions de hauteur.
Ouais.
Tandis que Xenakis avait utilisé ces trucs stochastiques pour contrôler tous les paramètres musicaux.
Tous les paramètres?
Oui.
Tous, même la masse?
La masse.
La densité. Oui. Il utilisait la loi de Poisson.
Oui. Je crois oui.
C'est quoi la loi de Poisson?
La loi de Poisson, c'est une loi qui permet de si on veut par exemple d'avoir des sons qui vont à une certaine vitesse, par exemple, de densité de 3 sons par seconde. Par exemple, dans une pièce comme Herma de Xenakis, qui est magnifique pour ça, il y a des sons, des classes de sons qui vont à différentes vitesses, et il y a par exemple des sons pianissimo qui vont à 8 sons par seconde, et des sons fortissimo qui vont à 1 son par seconde. Ce qui ne veut pas dire que 8 sons par seconde, on aura toujours 8 sons chaque seconde. Mmh. Mais si on fait la somme des secondes, et si on divise le nombre d'événements par la somme des secondes, on obtiendra 8. Voilà, c'est une vision globale et qui donne comme ce qu'il appelait des densités, c'est-à-dire des vitesses dans lesquelles les sons se succèdent.
Et cette loi de Poisson, elle a des origines militaires, c'est ça?
Oui, je crois que Poisson, qui était un mathématicien français, l'avait expérimenté sur le nombre de chevaux dans l'armée napoléonienne qui étaient morts avec un coup de pied de cheval.
Et il avait modélisé ça mathématiquement.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et comme Markov avait modélisé mathématiquement sa théorie en analysant les occurrences des lettres ou des mots dans un texte de Pushkin.
Tandis que Claude Shannon a utilisé des chaînes de Markov pour créer la compression.
Oui, il a utilisé conceptuellement les chaînes de Markov pour comprendre le langage.
Oui.
De même façon que ChatGPT le fait maintenant, c'est que si on veut par exemple encoder, compressionner un truc dans le nombre de bits minimum possible, il est important de savoir les patterns. Et la meilleure manière de comprendre les patterns dans le langage, de ce point de vue-là, c'est de les modéliser comme une chaîne de Markov, finalement. Mmh. Et donc, chaque chaîne de Markov a une entropie, un niveau d'aléatoireté, si ça se dit.
Et, ou un niveau d'aléa, tout court, oui.
Et finalement, Shannon a trouvé que ça donne le nombre de bits binaires qu'il faut pour encoder un langage quelconque.
Mmh. Quand vous utilisez une chaîne de Markov, alors Philippe Manoury, pour créer de la musique, cette machine probabiliste, elle s'applique à un paquet de combien de notes? Parce que on pourrait imaginer de faire de la musique avec stochastique markovienne avec cette note et faire, je sais pas, de la musique majeure. On pourrait faire de la musique sérielle avec 12 notes. Vous faites avec 88?
Voilà. Ben dans la première expérience que j'ai faite, c'était au conservatoire. C'était une pièce que j'ai retirée de mon catalogue, parce qu'elle n'a pas grand intérêt comme musique, mais c'est une expérience. J'avais utilisé, pas des notes, mais des intervalles, probabilité de succession des intervalles, c'est-à-dire de l'espace entre les notes.
Oui.
Et j'avais tiré, je me rappelle très bien, 70 intervalles totalement au hasard. Mmh. Choisis entre, pas 70 intervalles différents, mais disons, j'avais choisi seconde mineure, seconde majeure, tierce mineure, tierce majeure, quarte augmentée, quinte, sixte mineure.
Mais vous aviez dépassé l'octave et c'est pour
j'avais
ça que
j'avais dépassé l'octave, oui. Je ne me rappelle plus exactement. Enfin, disons. Non, je pense que j'allais jusqu'à l'octave. Octave non compris, je crois.
C'était atonal. Donc vous restiez dans un mode octavian.
Voilà, ouais. Dans un mode octavian. Et, mais il y avait aussi. Enfin, je ne me souviens plus dans les détails. Mais donc j'avais tiré 70 au hasard. Et évidemment, ça, ce n'était pas du tout markovien, puisque c'était du hasard total.
Oui.
Mais par contre, j'ai analysé ensuite le résultat. Et j'ai repéré des fréquences qui intervenaient plus souvent que d'autres. C'est-à-dire, après une tierce mineure, il va y avoir une quarte, par exemple. Et donc, je fais une analyse et j'obtiens des probabilités de succession. Et ensuite, je passe ça dans une matrice de Markov qui va respecter ces probabilités. J'en tire encore 70 et je tire comme ça des successions de 70 intervalles. Et ce qui se passe, c'est que les probabilités qui étaient dominantes au début vont s'imposer et les probabilités qui étaient faibles au début vont disparaître. Et j'arrête la pièce quand j'ai une boucle, c'est-à-dire quand j'ai, je ne sais pas moi, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, et à la fin, quand il y a une boucle, elle intervient toujours différemment.
C'est-à-dire que c'est, oui, c'est ça, c'est une machine qui finit par produire de la répétition.
Voilà. Ouais. Oui, parce que il vient un moment, en analysant le résultat, on obtient 100%.
À cause de cette mémoire.
Voilà. Et puis, il y a au fait que si on respecte les probabilités, c'est-à-dire qu'on analyse ce qu'on a obtenu, on fait une analyse probabiliste et on tire une nouvelle série qui va respecter ces probabilités, on la réanalyse. C'est comme ça une boucle de rétroaction où on analyse ce qu'on a fait.
C'est ça, et qui fait que ça réduit le champ des probabilités.
Et petit à petit, ouais. Les probabilités vont se former,
se resserrer.
Se resserrer, il va y avoir...
Se resserrer sur les plus fréquentes.
Voilà, et il n'y aura plus qu'à un moment de probabilité entre 6 ou 7 événements à raison de 100%. Et là, on obtient une boucle, puisque...
Alors, vous avez tous les deux commencé à travailler ensemble il y a 35 ans, en 1988, sur une pièce qui s'appelle Pluton. Vous vous souvenez des premiers problèmes que Philippe vous a adressés, Miller Paquet?
Oh là là, je me souviens des premiers matrices de Markov qu'on avait fait, avec un DX7 qui était une synthé très répandue à l'époque-là, et avec une Macintosh Plus, je crois. Donc, on était pas dans un studio, on était dans l'ancien bâtiment Jules Ferry. Au deuxième étage, on regardait la fontaine Stravinsky et on faisait des notes qui sortaient des chaînes Markov pour la première fois.
Donc vous étiez à quelques étages au-dessus de là où on enregistre l'émission à l'IRCAM.
Exactement. Ouais. Exactement. Et l'intérêt, l'idée que Philippe avait, j'aurais jamais pensé à ça, c'était que les auteurs vont suivre une chaîne de Markov, par exemple, mais les durées ne vont pas être données par le compositeur, mais ils vont être données par la même séquence qui génère la chaîne Markov, mais pas de façon d'être une partie du chaîne, mais seulement... À chaque fois qu'on fait une transition qu'on avait appris du synthé, du clavier en temps réel, on répète le rythme et la dynamique de ce qu'on avait joué. Donc, ce n'est pas strictement une chaîne Markov, c'est une autre idée qui échappe un peu, qui s'éloigne un peu de ça. Et finalement, j'aurais dû dire avant, c'était un apprentissage en temps réel. C'est-à-dire qu'on commençait par deux notes qui donnaient une seule transition et on ne pouvait rien faire sauf répéter la transition. Et plus qu'on entrait des notes et avec des rythmes différents, des dynamiques différentes, plus ça s'enrichissait dans le temps. Et donc, il y avait un processus qu'on pouvait donner du forme compositionnelle comme ça.
Et vous, Philippe Manoury, pourquoi est-ce que, après tout ce que vous aviez fait avec Philippot, de calcul tout seul et ainsi de suite, vous aviez d'un coup, en 1988, besoin de Miller Pocket pour avancer?
Mais parce que c'était le temps réel. Ce que je faisais
d'accord,
autrefois,
oui.
c'était du calcul à la main que je reportais sur des partitions.
Et que vous faisiez jouer à
voilà,
des musiciens.
C'est ça. Et là, il faut dire que c'était c'est le cas avec Xenakis. C'est la chose qui est un peu à la limite de l'incohérence, je dirais presque philosophique, c'est-à-dire qu'on fait une chose qui est aléatoire dans la composition, mais une fois que la partition est écrite, on ne peut plus rien y changer. Et donc la partition est toujours la même. Et donc l'aléatoire, en principe, n'est jamais la même. Alors l'interprétation est toujours différente, comme n'importe quelle interprétation. Mais le texte était toujours le même, puisqu'il était couché sur papier. Et quand on a fait ça avec Miller, c'était vraiment au tout début du temps réel, mais au tout début. Hein. Et j'ai voulu comme ça me dire, si on utilise... On peut maintenant, avec le système MIDI qui a un peu disparu maintenant, mais qui était très pratique, l'ordinateur pouvait savoir instantanément quelle note était jouée, pendant quelle durée et avec quelle intensité. Et donc, tout ça s'était stocké. Et on a eu l'idée de faire une matrice de 88 notes, c'est-à-dire les 88 touches qu'on a sur un piano. Et donc, on avait 88 notes et on joue une mélodie ou n'importe quoi. Et comme l'a expliqué Miller, ça fait des couples de succession, de note à note. Et après, quand plus on rejoue, plus on fait des nouvelles transitions. Mais par exemple, si je rejoue deux fois la même chose que j'ai jouée, par exemple, si j'avais joué Do Ré, si je joue encore ces deux notes-là, Do Ré, mais par exemple plus lentement, j'efface la première et je la remplace par la seconde. Donc on peut...
On peut arriver comme ça à renouveler le discours.
Voilà, ouais. qui analyse en permanence ce que fait l'instrumentiste et qui donne la musique qui en ressort, c'est une espèce, je dirais, de variation. C'est-à-dire qu'on reconnaît évidemment ce qui a été joué.
Quand vous dites ce qui en ressort, c'est-à-dire que d'une part, il y a un pianiste qui joue votre partition, voilà. Et d'autre part, il y a le retour de ce que les chaînes de Marcos vont produire en temps réel.
Voilà, c'est ça.
Mais ça veut dire que ce que vous écrivez sur la partition est un petit peu calculé de votre part pour justement déjouer les pièges d'enfermement de discours que vous aviez repérés dans l'utilisation des chaînes de Marcos.
Alors, ce qu'on a oublié de dire, c'est que, je vais donner un exemple très simple, on a une note qui peut être suivie par deux autres. Par exemple, Do peut être suivi par Ré ou par Mi, pour donner très simple. Ouais. Donc là, il faut décider quel est le pourcentage. Avec quel pourcentage, on va voir la succession Do Ré et la succession Do Mi.
Oui.
Et ça, on ne peut pas prendre cette décision tout le temps, parce qu'il faudrait...
Donc on la programme ?
Non. Ce que j'ai fait, ce qu'on a décidé, c'est qu'on regarde avec quelle intensité joue la deuxième note. Et si le Ré est joué plus fort que le Mi, la probabilité de l'apparition du Ré sera plus élevée que celle du Mi. D'accord. Donc les transitions, c'est joué, c'est dans la partition, effectivement, mais les probabilités de ces transitions-là, elles sont données par le pianiste quand il joue. Et ce qui m'intéressait beaucoup, et c'est aussi ce qui m'intéresse beaucoup maintenant, toujours dans l'informatique, et c'est qu'un interprète, par exemple, et si on lui dit de jouer mezzo forte et forte, il sait vaguement ce que c'est, mais c'est pas clair. Si on lui dit joue Do et Ré, il sait exactement. Un Do, c'est un Do, un Ré, c'est un Ré. Mais comment définir ce qui est piano, ce qui est mezzo forte, ce qui est forte ? On ne sait pas. C'est la manière de jouer.
Et donc là, ce sera la discrétion de la machine qui encode de décider.
Voilà, elle va analyser précisément quelle va être l'intensité. Et de cette intensité, je déduis la probabilité. Donc deux interprétations donneront des probabilités totalement différentes. Mais on reconnaîtra toujours... Ce que donne la machinerie de Markov est une espèce d'image probabiliste de ce que joue El Piano.
Agora Côte d'Azur.
Extrait de Pluton de Philippe Manoury et Miller Pocket, on peut dire. C'était interprété par...
Ichiro Nodaira.
Ichiro Nodaira a fait la création, ensuite Pierre Lorémar l'a joué, Sébastien Vichard l'a joué ici, et récemment Dimitri Vassiliakis l'a joué.
Et alors, à peu près 30 ans avant, Pierre Boulez avait écrit « Pourquoi choisir le réseau aussi méticuleusement ? Pourquoi ne pas laisser ce réseau lui-même à l'inadvertance ? C'est ce que je n'ai jamais pu éclaircir. » Il affirmait une forme de perplexité devant les démarches de musique aléatoire, sans doute essentiellement celle de John Cage.
Oui, et de Xenakis aussi.
Et de Xenakis, oui.
Parce qu'il disait des fois, s'il arrive dans la vie qu'on n'a pas de chance, et donc... Ça peut arriver aussi en musique, et une fois qu'on a une probabilité qui a été déterminée, si on la met sur du papier...
Donc le débat dans ces années-là était de utiliser le hasard, mais avec ou non contrôle.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et d'ailleurs, à l'intérieur des musiciens algorithmiciens, il y avait effectivement, est-ce qu'on corrige ou pas la partition de...
Voilà, alors la position de Pierre Barbeau, qui était très radicale, comme toujours, c'était
on
ne
touche
rien toucher.
Ouais.
Xenakis se retouchait beaucoup.
Et Jeannine Charbonnier, je crois, retouchait un peu.
Un petit peu, je pense. Mais
oui, donc on avait vraiment un panel de positions.
Ouais, ouais.
Et Michel Philippot en voulait à Xenakis de retoucher.
Barbeau surtout.
Il
a eu des mots très, que je ne répéterai pas.
D'accord.
C'est très difficile.
Et 30 ans plus tard, Pierre Boulez, quand il vous entend faire ça, il dit quoi ?
Ah, il était très intéressé. Parce que l'aléatoire l'intéressait avec sa troisième sonate. Et on se retrouvait, je me rappelle, ici à côté, là, dans le studio 5. Plusieurs fois pendant l'année, mais même des fois plusieurs fois par mois, c'est de s'arriver toujours à, je sais pas, 6h du matin ou 7h du matin, parce que c'était le seul moment où il était libre, et on parlait sur ces questions théoriques, on lui montrait ces choses-là, et ça l'intéressait beaucoup, parce qu'il voyait que l'électronique, petit à petit, intégrait la dimension compositionnelle, et pas uniquement sonore. C'est-à-dire oui, que la structure de la pièce pouvait être utilisée justement des processeurs électroniques. Et sa machine, c'est lui qui l'a voulu, mais c'est pas lui qui l'a construite. Mais on a travaillé sur la 4X, qui était le premier ordinateur puissant en temps réel.
Si j'ai bien compris, pour Pierre Boulez, l'intérêt c'était la surprise. C'était que lui-même, comme chef d'orchestre par exemple, pouvait jouer une pièce dans laquelle il ne pouvait pas savoir à l'avance comment ça déroulerait. Ça, c'est complètement différent que l'optique de Philippe, par exemple. Mais c'est aussi un point de vue très intéressant et fructueux, je crois.
Alors, le paradoxe, c'est que l'interprète va avoir un pouvoir inédit sur la forme qui en résulte, pour autant que le résultat est d'une cohérence stylistique à peu près homogène.
Ah ben, c'est ça. Alors,
c'est quand même du Manoury, quoi.
Voilà. Ouais. Et puis, ce qui se passe, c'est que quand j'ai composé ça, et même encore quand j'utilise encore beaucoup ces procédés, je laisse tourner la machine pendant des heures et des heures et j'écoute ce que ça donne.
Et vous attendez que ce soit beau?
Ben, je sais pas, s'il y a quelque chose qui ne marche pas ou qui ne me plaît pas, j'essaie de corriger.
Ah, ça, c'est votre côté un peu Xenakis, du coup?
Oui, bien sûr, mais après, non, parce qu'après, je ne peux plus rien faire, c'est du temps réel.
Donc, on corrige la chaîne et pas le résultat de la chaîne, pas la sortie. Voilà.
C'est quoi la différence?
La chaîne, lui, ça se compose des probabilités intérieures à le processus.
Ah oui, on ne peut pas.
Et puis, on lance le processus et on écoute ce qu'il fait et on ne change pas à ce niveau-là, mais on peut aller en arrière, changer la chaîne même. Pour pouvoir comment ça produise après.
Mais c'est quoi changer la chaîne? C'est dire je ne veux plus de septième diminué?
Oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi je peux intégrer par exemple d'autres éléments. Donner aussi un exemple que j'ai fait dans Pluton et que j'ai réutilisé plus tard, c'est que si je joue par exemple une mélodie, donc des notes successives, ces mélodies ont des transitions qui sont données par des temps, puisqu'il y a des temps entre chaque note. Maintenant, si je prends toutes ces notes qui ont été jouées de manière successive et que je les joue comme un accord, donc elles sont toutes ramenées à un temps zéro. Et donc, maintenant, quand il va y avoir une de ces notes, elle a le choix, la matrice a le choix entre continuer la mélodie ou jouer un accord et bloquer. Et plus ça va, plus je vais rentrer des accords en répétant les notes autrefois mélodique, mais sous forme verticale, plus je vais stabiliser et faire en sorte que les accords vont devenir de plus en plus fréquents. Et le paradoxe, pas le paradoxe, mais l'expression qui en ressort et l'image que je donne, c'est l'image d'un orage. C'est-à-dire, vous êtes dans la campagne, il y a un orage qui éclate. La certitude que vous avez, c'est qu'il va y avoir de la foudre, et puis des éclairs, mais de la foudre va tomber. Mais vous ne savez ni où, ni quand. Et donc,
Vous êtes prêt à la surprise, mais voilà, vous serez surpris quand même.
C'est ça. Ouais. Et donc, on est dans un paysage familier qu'on reconnaît, enfin, disons, une situation familière qu'on reconnaît, mais le détail de cette situation vous échappe complètement. Et là, on est dans une attitude très probabiliste, c'est-à-dire que on sait que plus l'orage s'approche, plus la probabilité d'avoir des étangs de plus en plus courts entre les éclairs et la foudre vont se rapprocher aussi. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je crée des situations, ou je dirais des paysages sonores, je pourrais appeler ça comme ça, dans lesquels, j'écoute pendant longtemps ce que ça donne. Et ce qui m'arrivait très souvent, ce qui m'arrive toujours, c'est que quand je fais ça à la maison, je lance une chaîne de Markov le soir, ça tourne pendant toute la nuit, je coupe le son pour pas embêter les voisins évidemment, et le matin, je rouvre le son, et l'ordinateur avait pendant toute la nuit à continuer à développer ça, et je regarde ce que ça donne, et je regarde si ça donne toujours le style de musique que j'avais en tête, et ce que je veux obtenir. Et ça, et si je vois qu'il apparaît des événements que je n'ai pas souhaités, j'essaye de modifier.
Qu'en est-il du choix des timbres de la partie électronique? Elle est elle-même soumise à Markovisation?
Non, ça c'est je choisis quel type de son je veux.
Donc un synthé en particulier?
Oui, ou un son de piano. Par exemple, dans Pluton, c'était des sons de piano qui étaient transposés, des accords de piano qui étaient transposés.
Avec l'idée justement de créer une indistinction entre ce qui est entrant et ce qui est sortant.
Oui.
Mais tu te trompes parce qu'il y a par exemple les promenades aléatoires qui contrôlent les formants.
Ah oui,
ça, donc ça c'est un changement timbral qui est piloté finalement par une chaîne Markov.
C'est vrai.
Donc ça existe.
En écho, pareil pour voix électronique, mais je l'ai, on l'a utilisé dans d'autres pièces. C'est ce dont Miller parle, mais là c'est il a construit un synthétiseur, mais en numérique, quoi.
Oui.
Dans lequel le balayage des harmoniques.
Oui. Qui détermine les timbres,
est soumis à des chemins markoviens. Et donc, on entend qu'il y a quelque chose qui se balade tout le temps, mais que ça fait comme des arpèges qui montent, qui descendent, ça fait des formes. Et là, effectivement, c'est fait sur des chemins markoviens, et justement, on peut contrôler globalement le mouvement, mais pas dans le détail.
Agora, Côte d'Azur.
Cette recherche d'une espèce d'équilibre entre de l'écrit et quelque chose qui se produit en temps réel, c'est une préoccupation qui vous venez de l'écoute de Mantra de Stockhausen.
Oh, Mantra, c'est quelque chose de très très structuré parce que
c'est plutôt dans Contact alors.
Alors plutôt dans Contact, ouais. Mais alors justement, ça m'intéresse beaucoup parce que ce sont deux pièces qui appartiennent à des époques différentes. Et l'une, la première, Contact, qui est pour moi peut-être la plus belle pièce de musique électronique de cette époque, est une pièce extrêmement travaillée. Il y a un montage, un mixage interne, il y a des voix, une polyphonie. C'est quelque chose de vraiment très, très impressionnant.
Les timbres sont un peu datés à écouter maintenant.
Les timbres sont un peu datés, mais c'est le cas de beaucoup de musique électronique.
Oui.
Moins datés que les pièces de Schaeffer, je trouve, et de Pierre-Henri, personnellement. Et c'est l'enregistrement qui fait que... Mais c'était une musique électronique très active. Quand il a fait Mantra, c'était le tout début du temps réel, mais pré-informatique. L'informatique n'existait pas à l'époque. Disons, elle existait, mais pas en musique. Et là, on s'aperçoit que la musique électronique était très passive. C'est juste une transformation des sons du piano. Mais quand le pianiste ne joue pas, l'électronique se tait, elle dit rien. Et moi, j'étais toujours un peu attiré par ces deux choses-là. Et je me suis dit, avec l'ordinateur, ce qu'il faut, c'est échapper à cette passivité du temps réel. C'est-à-dire que l'ordinateur répond à un instrument, mais ne s'exprime pas lui-même, enfin, ne produit pas lui-même quelque chose en dehors du champ instrumental. Et donc, les chaînes de Markov, c'était une manière de donner de l'autonomie et de faire en sorte que la machine va continuer à produire de la musique, suivant certaines ce qu'on a expliqué avant, mais ça ne va pas, c'est pas lié à une contingence instrumentale, c'est-à-dire qu'il y a une certaine autonomie, et on retrouve, dans ce cas-là, on peut retrouver une complexité qu'on avait dans la musique électronique telle qu'on l'a évoquée dans Contact, par exemple, avec une complexité, une polyphonie à l'intérieur, parce que la musique est active, il y a une activation.
Et alors là, vous superposez les paramètres à fond. C'est quoi le problème que vous essayez de résoudre avec cette pièce?
Ah bah c'est d'avoir que le pianiste, les pianistes,
oui, c'est un duo,
sont environnés par quatre pianos démons, ce que j'appelle des pianos démons, c'est-à-dire quatre pianos qui sont virtuels, des sons de piano. Il n'y a que des sons de piano tout le temps dans la pièce, et ils sont en résonance avec eux, et donc ces pianos virtuels vont beaucoup jouer sur les chaînes de Markov. C'est-à-dire qu'ils vont produire de la musique markovienne aléatoire, mais comme on l'a dit, avec des choses reconnaissables. Et alors évidemment, les deux pianistes, comme l'ordinateur produit toujours quelque chose de différent, ne peut pas écrire une partition que les pianistes vont suivre, puisque l'ordinateur va le calculer. Mmh. Donc l'idée, c'était de trouver une manière de comment ces deux pianistes vont réagir
l'un à l'autre, mais surtout et au démon.
Ouais, ouais. Et justement, il y a un moment où il y a, je parlais de ces accords, et à un moment de ces accords naissent quelques brides mélodiques qui vont petit à petit disparaître, quoi. Et les pianistes doivent être aux aguets, et je leur ai dit, essayez de répondre et de jouer avec ça, c'est-à-dire quand vous entendez tel événement, soyez réactifs et jouez telle chose. Donc tout est écrit, c'est pas une improvisation, mais le temps est très libre. C'est-à-dire que je dis pas ici, attendez deux secondes. Le temps de réaction est donné, laissé à la liberté des pianistes. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, j'ai eu ça aussi avec la dernière pièce que j'ai faite pour Daniel Barenboim, dans laquelle il y a beaucoup de chaînes de Markov. On a l'impression que c'est le pianiste qui déclenche les choses, alors que ce n'est pas du tout vrai. Et les gens ont l'impression, puisqu'ils entendent que ce que produit le pianiste est joué par la chaîne de Markov, mais la rencontre est totalement fortuite. Et ça donne l'impression d'un déterministe. C'est-à-dire, on dit, tiens, cet élément-là, il a été déclenché par le piano. Parce qu'on entend qu'il y a comme une réaction de cause à effet. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, ça arrive par hasard. Et là, ce que je trouve, c'est intéressant, parce que ça donne une perception qui n'est pas du tout probabiliste. Mmh. On dirait qu'elle est déterminée, mais elle n'est pas déterminée, elle est probabiliste.
Mais alors, pour le coup, on pourrait vous renvoyer le jeu de détermination entre ce qui ressort des calculs et l'intention de composition que vous y mettez. Par exemple, dans un extrait du temps mode d'emploi, vous dites, voilà, là, il y a matrice à partir d'accords complexes. Le résultat ressemble à des plaques suspendues qui se heurteraient à cause de vent violent. C'est vous qui le constatez ou c'était une intention ?
C'est moi qui l'ai constaté.
Oui.
Non, parce qu'il ne faut pas oublier que...
Donc le programme, vous le déduisez du résultat des choses.
Alors, mais il ne faut pas dire que la musique électronique, elle ne peut pas s'écrire à l'avance. C'est-à-dire qu'il faut avoir la machine et puis expérimenter. Ce n'est pas comme une partition d'orchestre où on peut tout prévoir et là, il faut expérimenter. Et effectivement, quand j'ai écouté ces accords qui s'entrechoquent, ça m'a tout de suite fait donner l'idée de plaques métalliques qui seraient heurtées par un vent assez violent et qui donnerait quelque chose de très, très flou, quoi, très désordonné, mais avec une certaine beauté, justement.
Mais là, en revanche, ça arrive à chaque fois.
Ah oui, ça arrive à chaque fois, mais jamais de la même manière.
Ouais.
Jamais de la même manière.
Et ça, comment on l'explique mathématiquement ?
Les probabilités sont différentes.
Oui, mais on a le même scénario à chaque fois quand même.
Ou bien les probabilités peuvent être les mêmes, mais à chaque fois qu'on fait un processus aléatoire, les résultats exacts suivent les probabilités, mais ne sont pas répétables, quoi.
Oui, ça prend jamais le même chemin, mais ça va toujours au même endroit.
Vous avez, à partir d'un événement, si vous avez six événements qui puissent arriver, chacun avec leur probabilité, vous pouvez imaginer qu'on peut avoir autant de résultats qu'il y a d'événements.
Mais quel est le rapport entre le moment de l'augmentation de la probabilité des griffures au détriment des accords, c'est quelque chose que vous contrôlez par le réglage des chaînes de Markov, et les textures délirantes que vous en déduisez,
C'est la même situation, ce que j'appelle des griffures, c'est des bouts de mélodie qui semblent comme griffés, quoi, comme très rapides et très violentes, et puis des accords qui sont plaqués, et les uns s'entrechoquent par rapport aux autres. Et si je pousse la probabilité très loin, j'augmente le hasard et j'obtiens quelque chose de très délirant. de vraiment très délirant, c'est-à-dire qu'on ne perçoit plus une chose qu'on ne perçoit plus, on n'a plus d'anticipation. Ça, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé, mais qui est important. C'est-à-dire que l'anticipation est quelque chose de très important. Et dans une chaîne de Markov, on ne peut pas anticiper, mais comme elle produit quand même des événements qui interviennent plus fréquemment que d'autres, fatalement, on va les anticiper. C'est-à-dire que si j'entends des accords, ben, je pense que ça va durer encore pendant quelques temps. C'est comme si vous étiez dans un orage, vous avez une foudre, vous anticipez comme le prochain coup de tonnerre, la prochaine éclair. Donc le phénomène d'anticipation est très important en musique. Et les chaînes de Markov, c'est une manière de créer de l'anticipation.
Oui, parce qu'il y a eu une époque de la psychologie de la musique où on s'est dit seule la musique à peu près tonale peut nous donner des sentiments de tension et de détente, et puis la musique sérielle nous en éloigne et c'est foutu.
C'est vrai que pour certaines musiques sérielles, c'est vrai, mais la musique qu'on compose aujourd'hui n'est plus de musique sérielle comme on le faisait dans les années.
Donc on peut remettre des schémas tension-détente pour l'auditeur.
Et moi, l'autre chose qui me fascine avec les chaînes de Markov, comme je dis un peu en plaisantant, c'est que j'ai l'impression qu'on a réalisé le vieux rêve de Beethoven.
De la variation infinie.
La variation infinie. C'est-à-dire,
c'était quoi ce rêve ?
Je pense que dans les variations d'Abelli, par exemple, ou même de la Grande Fugue, on voit qu'il va tellement loin, c'est-à-dire qu'il prend un petit élément d'un motif et il le transforme de tellement de manières différentes qu'on a l'impression que c'était comme un citron infini. On finit par le presser et le jus continue à sortir.
Vous allez faire des Diabelli Markovisés ?
C'est ce qu'on a fait, je pense.
En quelque
sorte.
Parce
que ce que je veux dire, c'est qu'on reconnaît un motif. C'est ça qui est important.
Oui.
C'est-à-dire que si je veux faire, par exemple, une mélodie qui monte, je ne sais pas comment elle va monter, si elle va monter rapidement ou lentement, ou si elle va faire des pas comme ça. Mais par contre, je sais qu'elle va monter. Le motif, c'est qu'elle monte. Et la variation infinie chez Beethoven, c'est ça. Il y a un motif, mais il va s'exprimer d'énormément de manières différentes.
Pour terminer, comment est-ce que vous expliquez le sentiment de montée d'improbabilité dans le monde contemporain ?
Sa complexité, je crois.
Oui. Parce qu'il y a hyperconnexion de tout avec tout.
Oui, les phénomènes sont très complexes. Et là, je viens de vivre
une série d'accidents.
D'annulations dues à des grèves pour des raisons politiques, dues à la maladie pour un pianiste, dues aussi à la maladie pour une chanteuse, dues au Covid, évidemment. Donc, il y a beaucoup de choses sont interconnectées. Et ce qui fait qu'il y a une... Comme je dis en plaisantant, j'ai beaucoup utilisé les chaînes de Markov, mais ma vie devient de plus en plus markovienne. C'est-à-dire qu'il faut raisonner en termes de probabilité et non pas de certitude.
Et ça, vous pensez que c'est un hasard ou Parce qu'on a dû reprogrammer plusieurs fois la date de cet enregistrement.
Par exemple.
Ce qui est la conséquence.
On ne sait pas si le hasard existe dans la réalité ou pas, finalement. Ah. Mais c'est comme si ça existait. On a toujours tendance à percevoir la réalité comme si c'était de l'hasard.
Oui, et puis parce que aussi à l'inverse, John Cage, par exemple, projetait sur le hasard une espèce d'ordre du monde ultra, quoi.
Oui. Mais il y a dans les sciences, je suis pas un scientifique, mais dans les sciences qu'on appelle la théorie du chaos, par exemple, qui prouve qu'il y a des phénomènes. Le hasard, on pouvait penser avant que c'était juste une méconnaissance de notre part, c'est-à-dire un phénomène très complexe. On connaît pas
tous les. Oui, à la Spinoza, en fait.
Ouais,
oui,
c'est ça. Pas tous les.
C'est parce qu'on
ne
sait pas que.
Ouais. Mais maintenant, on sait qu'il y a des phénomènes qui sont intrinsèquement probabilistes. La météo, par exemple. La météo, qui est une des premières manifestations des gens qui ont fait la théorie du chaos.
Oui, il n'y a pas de hasard là-dedans, mais pour le comprendre, le meilleur outil que nous avons, c'est le hasard.
C'est ça.
C'est-à-dire que modéliser un truc qu'on ne comprend pas, un outil très très fort pour faire ça, c'est de considérer comme un processus à hasard.
C'est ce qui explique que certaines musiques pas du tout aléatoires mais hyper complexes ressemblent à de la musique aléatoire.
Absolument. Et c'est par exemple l'excès de. Et même une chose qui est intéressante, philosophiquement je dirais, c'est que les extrêmes se touchent parce que. Si vous avez trop de complexité, justement, L'auditeur ne peut plus rien anticiper, c'est trop complexe. Ce qui arrive avec les gens, par exemple, qui écoutent certaines musiques contemporaines, ils ne sont pas habitués culturellement à cette musique, et c'est trop complexe, et pour eux, ça devient du bruit.
Et, ça ne peut, oui, c'est ça,
et
ça
donc, ça devient quelque chose de très simple, ça va, ouais. Ça va c'est de la grisaille. Quoi.
Ouais.
Ça, c'est et finalement, l'extrême complexité peut donner naissance à quelque chose de très simple. L'exemple le plus frappant, c'est le bruit blanc.
Merci beaucoup, Philippe Manoury. Merci, Miller Pocket.
Merci
et on se quitte avec un extrait de cette pièce composée pour Daniel Barenboim.